19h, ah non, 19h01 et 30 secondes. On a près de 2 minutes de retard. Tout de suite, face à l'info, mais les infos avec Simon Guillain.
Bonsoir à Christine et bonsoir à tous. Des scènes de violence ce matin devant le lycée polytechnique de Cachan dans le Val-de-Marne. 200 individus ont bloqué l'entrée de l'établissement. Ils ont notamment mis le feu à des poubelles avant de s'en prendre aux forces de l'ordre. 2 policiers ont été blessés et une personne a été interpellée sur place. Le soutien de Nicole Belloubet au proviseur menacé de mort, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue au lycée Maurice Ravel à Paris, où elle a déploré des attaques inacceptables. Mercredi dernier, le proviseur de cet établissement avait demandé à des élèves de retirer leur voile et l'une d'entre elles avait refusé, ce qui avait donné lieu à une altercation. Et puis ce chiffre, à quelques jours de la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu ce vendredi, à temps égal, les femmes salariées dans le secteur privé gagnent 14,9% de moins que les hommes. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui par l'INSEE, chère Christine.
Merci beaucoup, 14,9% chiffre à retenir. Merci, mon cher.
De la soirée.
Merci, cher Simon. Allez, au sommaire ce soir, alors que Gérald Darmanin est auditionné au Sénat ce soir sur la sécurité des JO, l'affiche officielle n'en finit plus de faire des polémiques. La croix au-dessus du dôme des Invalides a été remplacée par une flèche. L'auteur de l'affiche, Hugo Gattoni, est très connu pour ses dessins et pour son souci du détail. Alors pourquoi donc avoir enlevé la croix ? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Alerte rouge sur les dépenses de l'État. 10 milliards d'euros d'économies doivent être réalisés cette année. Annonce faite il y a quelques jours, il faut faire des économies en urgence. Sauf qu'on apprend que surrenant la fonction publique a vu un accroissement de ses fonctionnaires et agents publics. C'est la plus haute forte hausse depuis 2013. Inconscience délirante, française ou confiance excessive en l'avenir. L'analyse de Dimitri Pavlenko. Voici l'autre affiche qui fait beaucoup parler ce soir. Certains la décrivent comme l'affiche de la honte. Pourquoi ? Un parallèle entre Simone Veil et Mathilde Panot est réalisé par la députée LFI le jour même de l'inscription de l'IVG dans la Constitution comme la droite ligne de la politique de Simone Veil. En quoi cette affiche est-elle gênante ? Le regard de Marc Menant. Vive les JO avec 326 000 spectateurs attendus pour la cérémonie d'ouverture. Les bouquinistes vont finalement rester à Paris. Les migrants aussi, certainement sans solution d'hébergement. Mais certaines rues ont perdu leur charme parisien et sont tombées sous le charme afghan. Des rues complètement afghanes avec des commerces qui ont émergé nous détaille le Parisien aujourd'hui. Comment l'expliquer ? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis alors que la mairie de Paris avait interdit en décembre une rencontre publique sur la Palestine en présence de la philosophe américaine très contestée Judith Butler, celle-ci a finalement eu lieu ce dimanche à Pantin. Et sans surprise, la philosophe a déclaré que l'attaque terroriste du 7 octobre est un acte de résistance armée et dire que l'ONU a déclaré hier avoir des informations claires et convaincantes sur des viols commis par le Hamas. L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure avec nos mousquetaires, on commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Comment allez-vous ?
Mais toujours bien.
Alors, bien. Je vois qu'ils sont bien tous les deux au stabilo. Ils nous avaient laissé un peu le stabilo. Ah oui, ils sont mis au jaune tous les deux.
Laissez-les travailler, nous. Alors, il y a une personne autour de la table qui ne connaît pas ça. Regardez l'image.
Oui, Charlie.
Devinez qui ? Hashtag face à l'info. Oh, il y a Marc Menant qui ne sait pas où est Charlie.
Ah moi, Charlie, c'est De Gaulle. Ah ouais. Ou alors c'est Charlie Hebdo, mais il y a un ça dont je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas.
Non, vraiment. Alors,
on a tous joué à Où est Charlie ? C'est-à-dire de découvrir le petit.
Il faut trouver Charlie, là, il est là.
Et alors, il faut trouver Charlie, là.
Exemple,
voilà.
La rayon.
Ah, oui,
vous
ne
le trouvez pas ?
Oui.
Voilà.
Vous n'avez pas autre chose à faire dans la vie.
Ça permet d'avoir un peu de concentration, le sens de l'observation. Et c'est exactement le sens de l'observation qu'a Mathieu Bock-Côté ce soir. D'accord. C'est une polémique qui monte et qui semble très révélatrice, Mathieu, de la situation de la France aujourd'hui. Sur l'affiche des JO de Paris, on s'est permis d'effacer la croix du dôme des Invalides. Elle a été remplacée par une flèche. Quant au drapeau français, il est absent. Et cette double absence en fait réagir plusieurs. Que comprendre ?
Alors, si on se fie à l'évolution du discours pendant la journée, parce que c'est une polémique qui a monté, vous avez tout à fait raison, au moment présent, en ce moment, l'argument principal, c'est circuler, il n'y a rien à voir. il ne s'est rien passé, il n'y a pas matière à s'inquiéter, ces affiches ne devraient susciter que notre admiration, que notre joie, que notre bonheur. Comment osez-vous vous inquiéter? Alors, l'auteur, qui est Hugo Gattoni, nous dit...
On voit ici l'affiche.
Ouais, alors, il nous dit, il faut trouver les mascottes, trouver le porteur de flammes, trouver les disciplines. Il y a énormément de choses à trouver. C'est une affiche qui est extrêmement symbolique, qui raconte plein de choses du projet de Paris 2024. Alors, moi, c'est une phrase qui me semble importante. Si c'est une affiche qui a été pensée dans ses moindres détails, une affiche extrêmement symbolique, où chaque détail veut dire quelque chose, eh bien, je devine que dans cet esprit, l'absence de la croix ou l'absence du drapeau français veulent dire quelque chose. Alors, je connais l'argument de la charte olympique qui a été utilisé aujourd'hui pour le drapeau, où on nous explique que le drapeau ne doit pas être présent pour être conforme à l'esprit universel olympique. J'entends cet argument. Mais ce que je constate néanmoins dans cette affiche, c'est que tout est fait pour que, mis à part la Tour Eiffel et encore, pour qu'on ne reconnaisse pas vraiment Paris. C'est plus Disneyland que Paris. Il y a quelque chose là-dedans qui nous fait penser à l'œuvre de Philippe Meret, hein, vous savez, le grand écrivain dont on publie ces derniers jours, le dernier tome de son journal. Il y a quelque chose là-dedans qui nous fait penser à une bonbonnière. Il y a quelque chose là-dedans qui nous fait penser à un imaginaire régressif et adolescent, ou même relevant de l'enfance, un imaginaire qui représente assez peu Paris. Donc on nous dit, oui, c'est la liberté créatrice créative de l'artiste, et je suis absolument d'accord, mais ce que je constate, c'est croyant transfigurer Paris, croyant se le réapproprier à travers son propre imaginaire, il transforme Paris au point de le carnavaliser, si vous me permettez cette formule, de le Disneylandiser, de le faire de l'adolescentiser, autrement dit, c'est plus vraiment Paris qui est là, et surtout dans une affiche qui a une vocation officielle, faut-il le dire. Alors, l'absence du drapeau serait compréhensible. Je comprends, comme je disais, l'argument olympique. L'absence du drapeau serait compréhensible si tout était là pour le compenser. Or, tout n'est pas là pour compenser la chose, et ça nous montre à quel point il y a une forme d'inversion du rapport esthétique dans nos sociétés. Autrefois, peut-on dire, l'adolescent désirait ressembler à l'adulte. Aujourd'hui, l'adolescence, une culture quasi manga, une culture où est Charlie, effectivement. Moi, j'ai adoré où est Charlie quand j'avais 8 ans, mais j'ai plus 8 ans, et je pense que la plupart des gens qui sont intéressés par les JO n'ont pas 8 ans, donc on est dans cet imaginaire régressif qui... Et en tant que tel, au-delà de la capacité des uns et des autres à se scandaliser, qui est riche d'enseignements sur l'imaginaire esthétique de notre temps. Première chose, par ailleurs, où est Charlie? On pourrait dire, effectivement, il n'est plus là. On lui a fait la peau il y a quelques années. C'est pourquoi il est peut-être difficile de le trouver. Ou encore, aujourd'hui, il peine à se manifester dans l'espace public. Où est Charlie? On ne le voit pas lorsqu'on le cherche ces temps-ci. Commentaire mis à part. Mais là, donc ça, c'est une absence. C'est une absence dans un dessin. On peut comprendre une absence dans un dessin. Mais là, il y a un autre élément qui est plus important que l'absence, et c'est
surtout, Et surtout, pardonnez-moi, excusez-moi de vous interrompre, comme je le disais en titre, le dessinateur est connu pour son souci du détail.
Ben justement.
Pour la précision de son...
Alors, il n'y a pas oublié. Il a pensé consciemment pas mettre le drapeau. Mais surtout, le deuxième élément, absence... Enfin, on transfigure, là, c'est l'absence de la croix sur le dôme des Invalides. Et ça, c'est pas la même chose. Là, on n'est pas dans l'oubli, on est dans l'effacement. On n'est pas dans la volonté de ne pas rajouter. On est dans cette idée qu'on prend un monument historique avec une croix qui est significative, qui est porteuse, qui veut dire quelque chose, et on décide de l'effacer, de remplacer la croix par une flèche. On décide, autrement dit, d'éradiquer. On décide d'effacer la trace chrétienne.
Non, peut-être un peu trop, là, quand même.
Je ne crois pas. On nous explique que c'est une affiche avec une volonté très, très explicite d'avoir une charge symbolique forte, que chaque détail est important. Ben, moi, je prends au sérieux qui me dit ça. Et si, au final, je constate qu'il décide de faire disparaître la croix, alors l'argument qui était utilisé, qui circulait dans Le Parisien aujourd'hui, si je ne me trompe pas, non, c'est pas Le Parisien, il a dit « c'est ma liberté créatrice, je fais ce que je veux ». Un argument qui a circulé aussi dans les médias, c'était « il faut éviter de faire du prosélytisme religieux dans le cadre des Olympiques ». Je suis tout à fait d'accord, mais du prosélytisme religieux aurait consisté à rajouter des croix un peu partout, là où il n'y avait pas de raison d'en mettre. Mais le fait est qu'on est devant un édifice historique, on est devant un édifice où la croix est déjà présente, il y a la volonté explicite, par le souci du détail admirable de cet artiste, nous dit-on, il y a la volonté explicite de retirer la croix.
Je vous embête encore une fois.
Mais n'hésitez
pas. Article 50 de la charte des JO qui établit ceci, aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse, ou raciale est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique, ce qui demande certes plus d'efforts qu'une indignation hâtive.
Oui, ça c'est dans Huffington Post, si je ne me trompe pas. Mais oui, mais le fait est qu'il y a une différence entre, comme je dis, rajouter des croix partout et décider de laisser la croix là où elle est. Si ne pas disparaître, si ne pas s'auto-effacer, c'est basculer dans la propagande religieuse, alors là, c'est à ce moment qu'on quitte le domaine de la liberté créatrice de l'artiste et qu'on bascule dans le fait, dans une intention politique explicite ou pour ne pas heurter, et je reviendrai aujourd'hui, la sensibilité diversitaire dominante, eh bien, il faut s'effacer le plus possible soi-même pour être conforme à l'exigence de notre temps. Je note, soit dit en passant, nous sommes dans une époque révolutionnaire, de mon point de vue. Il y a la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution diversitaire. Et chaque fois, il y a la volonté d'effacer. Quand il y a un moment révolutionnaire, le symbole véritable d'une prise de contrôle sur le monde, c'est l'effacement des références chrétiennes. La volonté de faire disparaître la croix. Quand on fait disparaître la croix, c'est une manière de dire « voilà qui est le véritable maître ici ». La croix n'est plus, la croix est vestige, la croix aura peut-être sa place dans un musée, mais la croix ne surplombera plus, la croix ne pourra plus « dominer », entre guillemets. Et dès lors, je ne crois pas que la volonté d'effacer la croix sur ce dessin relève simplement du caprice ou du souci esthétique. Il y a là une dimension politique, une dimension philosophique, une dimension qui n'est pas qu'esthétique. Et je pense qu'on doit la prendre au sérieux. Dans la représentation qu'on se fait de la France aujourd'hui, on préférerait la voir sans drapeau, sans la croix, et peut-être un jour sans français, mais ça, il faut se donner le temps, simplement un peu de patience.
Ne s'agit-il pas pour les promoteurs des Jeux olympiques d'offrir le visage d'une France inclusive au monde entier, et pour cela, délesté de son héritage, peut-être jugé un peu trop particulier?
Ah, mais c'est exactement ça. Dans l'esprit des promoteurs des Olympiques, il faut que la France soit conforme. En fait, vous savez, tous les grands événements internationaux aujourd'hui traitent le patrimoine singulier de chaque peuple comme quelque chose, une forme d'encombrement. On tolère encore cet héritage à la manière d'un décor. Mais ça ne doit plus façonner profondément l'identité d'un peuple. Là, la capacité d'adaptation à la mondialisation est une capacité d'effacement de soi. Qui a une identité trop forte ne peut pas jouer dans la mondialisation dans l'esprit de ces gens. Et les JO, de ce point de vue, sont un moment dans la construction de la conscience mondialisée. Parce que qui a une identité trop forte, eh bien, c'est comme si finalement votre ville, votre métropole, votre capitale, votre pays n'est pas un Starbucks comme un autre. Ce n'est pas un aéroport comme un autre. Ce n'est pas un territoire comme un autre. C'est un territoire très marqué. Et quand on arrive là, on sait qu'on n'est pas chez soi, même si on est accueilli. Or, l'idéologie dominante de l'aéroport universel aujourd'hui veut que peu importe là où on va, on doit se sentir chez soi en toutes circonstances. On ne doit pas se sentir encombré par les gens qui ont le malheur d'y habiter et de penser que ça veut dire quelque chose. De ce point de vue, dans l'idée qu'il faut produire symboliquement une France mondialisée, diversitaire, compatible avec l'esprit de notre temps pour les JO, je fais un clin d'œil à ce qu'on disait hier, je ne suis pas surpris que Mme Nakamura soit invitée à chanter dans les circonstances parce qu'elle représente bien cette France d'après, cette France de la prochaine étape, cette France qui décide d'embrasser les États-Unis et la culture monde plutôt que l'héritage proprement français. Mais permettez-moi d'aller un peu plus loin, de faire un crochet, comme qui dirait, sur le rapport à l'histoire. Vous noterez qu'aujourd'hui, on nous explique que pour que la France puisse pleinement s'intégrer dans la mondialisation, dans l'Europe, dans le monde qui est le nôtre, eh bien, on a proposé, et on propose encore, de réécrire l'histoire de France. On dit, donc c'est ce qu'on appelle l'histoire mondiale de la France, dont on a déjà parlé sur ce plateau. Des historiens nous disent, si la France entre dans le monde trop chargée, trop lestée de son identité, de sa culture, trop convaincue de sa particularité, de son génie propre, elle ne sera pas capable d'avoir la flexibilité nécessaire pour les temps mondialisés. Donc ça, je pense que ça vient ensemble. Plutôt que de demander au monde de s'intégrer à nous, à tout le moins quand on accueille chez soi, on décide de s'effacer pour embrasser le monde, croyant que la figure de l'ectoplasme est l'avenir de l'homme. Par ailleurs, je me dis que là, on décide de retirer la croix pour la remplacer par une flèche. Dans quelques années, peut-être la remplacera-t-on par un croissant pour faire honneur à la gastronomie française.
Vous voulez faire un lien entre cela et les habitations du village olympique. Il semblera à plusieurs étranges. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Le village olympique. Pour moi, le lien est très clair. Volonté de construire un monde interchangeable, un monde sans personnalité, un monde délivré de tout souci esthétique. Et je regarde le village olympique et je me dis, mais c'était donc à cela que ressemblait un quartier soviétique. Un pays qui a le sens de la beauté comme la France, qui a le patrimoine architectural...
Vous n'aimez pas, là, c'est un seul image.
Si je, le plus beau compliment que je pourrais faire,
c'est bien en Seine-Saint-Denis.
Non, mais le plus beau compliment que je pourrais faire pour cet aménagement architectural, je dirais que c'est affreux. Et je suis pas dans le registre de l'insulte. Donc là, je me dis, se préparer pour les Jeux, aménager la France pour les Jeux, chercher à transposer le génie français dans les créations du moment pour les Jeux, et finalement arriver avec une série de bâtiments qui font penser probablement à un quartier d'habitation nouveau à Bucarest dans les années du communisme. On se dit, c'est ou quelque part dans une lointaine république soviétique. Donc c'est le triomphe de l'impersonnel, de l'aseptisé, du désincarné. Je ne veux pas jouer au philosophe, mais ce que je note, c'est chaque grand événement mondialisé aujourd'hui sert toujours un peu plus à effacer la culture du pays d'accueil, la culture du pays qui accueille cet événement. Donc on fait un grand événement, on cherche, bon, on en profite pour faire progresser la société quadrillée, sécuritaire, administrée, mais aussi on en profite pour fabriquer quelque chose qui ressemble très peu à ce qu'on a appelé historiquement la France.
Merci Mathieu Bocoté. Dans un instant, on fera un tour de table sur ce sujet parce que j'ai vraiment envie de vous entendre et je pense que chacun a quelque chose à dire sur cet effacement ou cet oubli de la croix au-dessus. Et vous savez pourquoi est-ce que la croix elle a été installée ? On en parlera dans un instant. Et vous me direz, est-ce que ça vous choque? Pourquoi est-ce qu'elle a été installée au-dessus du dôme des Invalides? On en parlera. Et puis on va aussi se poser la question, je vais vous demander que faire? Est-ce qu'on est là, on assiste, on s'insurge et puis on ne fait rien? Est-ce que, voilà, on en parle, on fera un tour de table.
On ne va pas aller lancer des bols de soupe. Mais...
Non, mais je veux dire, ça serait peut-être autre chose, d'autres auraient porté plainte. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein qui portent plainte pour des traditions contre des Vierges Marie, des statues de la Vierge Marie qui sont là installées depuis des années, des années. Je veux dire, parfois c'est et de l'autre côté c'est vrai, tout le monde s'indigne et puis on est là, on applaudit en silence en fait. Donc c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que il y a s'insurger, ça suffit? S'insurger en silence. Dimitri, le vendredi dans dans les Vosges, Gabriel Attal a annoncé des décisions difficiles. Alors là, on va parler économie parce que rien ne va plus. C'est 10 milliards qu'on doit faire, des milliards d'économies qu'on doit faire absolument, taillées dans le gras, comme on dit. Tous les ministères ont remis à Bercy aujourd'hui la liste détaillée de leurs coupes budgétaires. Alors, il faut se serrer la ceinture, mais on vient d'apprendre par liste que l'an dernier, l'emploi public, les fonctionnaires, ils ont augmenté 59 000 nouveaux postes.
Oui, chercher l'erreur. D'un côté, il faut faire 10 milliards d'économies en urgence et puis on apprend que l'an dernier, 59 000 nouveaux postes, c'est quand même plus d'1% de hausse de l'emploi public en un an. C'est la plus forte hausse depuis 2013, donc les années François Hollande, qui avait été très généreuse en matière d'emploi public. Donc en comparaison, l'an dernier, l'emploi privé n'a progressé que de 0,4% avec 91 000 créations de postes. Donc c'est-à-dire qu'on est là, tout près des 6 millions de fonctionnaires et assimilés en France, donc c'est-à-dire un emploi sur 5, sachant qu'un fonctionnaire, j'aime bien ce petit calcul, je ne sais plus où j'ai lu ça, un fonctionnaire c'est 43 ans de carrière, 20 ans de retraite, 10 ans de réversion. Donc pour l'État, c'est un engagement de 73 ans, dont 30 ans excellent de non-activité. Calcul. Bon, je dis ça, évidemment, mais mesdames, messieurs les fonctionnaires qui nous regardaient...
Mes parents sont fonctionnaires.
Il n'y a pas d'attaque personnelle, ma maman était fonctionnaire. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est l'État, il faut quand même une sacrée dose de confiance en l'avenir prendre cet engagement de 73 ans un certain nombre de milliers de fois. Bon, je n'ai pas fait la part entre les fonctionnaires et les contractuels, parce que quand on dit emploi public, vous savez, aujourd'hui, il y a des contrats de droit privé dans la fonction publique. Mais enfin, voilà. Mais en tout cas, ce chiffre de 59 000 embauches dans la fonction publique souligne d'autant plus, je trouve, le retournement qui vient de se produire sur la question des économies que Bruno Le Maire, et il faut le dire, lui pousse depuis des mois. Il se désespérait il y a quelques semaines que la question de la dette n'intéresse strictement personne. Bon là, il se trouve que là, ça y est, il a l'attention générale. Alors, ces 10 milliards d'euros d'économies, d'où ça sort, c'est inscrit dans un décret du 21 février... portant, je vous lis l'intitulé du décret, portant annulation de crédits ministériels à hauteur donc de 10 milliards d'euros. 10 milliards, c'est-à-dire en fait 1,5% des crédits qui sont ouverts par la loi de finances 2024. 1,5% en fait c'est le maximum que le gouvernement peut raboter par la voie réglementaire. Autrement, si c'est davantage, il faut passer par la voie parlementaire. Et enfin, je ne vous refais pas le film, le feuilleton budgétaire de l'année dernière, mais enfin, le budget... 2024, il a été adopté le 21 décembre 2023, donc il n'y a pas trois mois. On s'en fichait un peu parce qu'à l'époque, on ne parlait que de la loi immigration, mais ça a été voté à peu près au même moment. Oui. Il a fallu enclencher 10 fois le 49-3 pour y parvenir. Donc c'est vous dire combien c'est compliqué de parler budget aujourd'hui dans le contexte politique. Alors voilà, et trois mois plus tard, surgit donc cette urgence à faire des économies, alors que quand même le budget, on l'a voté il n'y a pas longtemps. On n'a pas laissé 2 semaines... au ministère pour décider où il fallait couper, dans quelles dépenses il allait falloir taper, comme si le FMI allait nous tomber dessus demain matin, comme si on était en train de vivre une attaque des marchés, une attaque spéculative sur la dette publique française, alors que pas du tout. La réalité, c'est que le baromètre de la confiance sur la dette publique française, c'est quoi ? Ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart de rendement qu'il y a entre l'emprunt français à 10 ans et l'équivalent allemand, et l'emprunt allemand. Or, il se trouve que nous, en ce moment, en France, nous empruntons à 2,8%, 2,8%. Les Allemands, ils sont à 2,35%. On a moins d'un demi-point d'écart de taux d'emprunt avec les Allemands. AXA disait il y a quelques semaines, c'est anormalement bas. C'est pas normal que ce soit aussi resserré. Voilà. Et pourtant, l'empressement de Bercy à dire vite, vite, il faut trouver des économies, bah, ça vient de là. Ça vient de la raison financière, la peur, en fait, tout simplement, d'un abaissement de la dette souveraine française. Alors, il se trouve qu'on a une première agence, DBRS, qui doit se prononcer sur la dette publique française, évaluer sa qualité, donc le 22 mars, vous voyez, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Fitch, Moody's, ça, c'est fin avril. Et puis, on a Standard & Poor's qui doit se prononcer fin mai. Voilà. Donc, et alors, il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Bruno Le Maire s'était tranquillement invité aux 20h pour annoncer la saignée.
Oui.
Et alors, c'était un peu bizarre, parce que d'un côté, c'était très solennel. Le ministre de l'économie, aux 20h, vient dire 10 milliards d'économies. Et il a cette phrase de banalisation. Il dit, bon, la croissance cette année sera un peu plus faible qu'attendue. On sera autour d'1%. On gagne moins, on dépense moins, c'est du bon sens. On gagne moins, on dépense moins, c'est du bon sens. Ouais, sacré bon sens. Voilà. Alors, on va dépenser moins. Mais je vous rappelle que la loi de finances 2024 prévoit à la fin de l'année un déficit de 4,4% du PIB. Alors, rapide rappel, le PIB de la France, c'est 2800 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous créons chaque année, enfin là actuellement, on crée 2800 milliards d'euros environ de richesse. Un point de PIB, c'est donc 28 milliards d'euros. 4,4% du PIB, ça fait 112 milliards de dépenses. De plus que les recettes de l'État. Autant vous dire que 10 milliards d'économies, quand vous êtes en... Vous avez compris, Marc ? Quand vous avez 112 milliards de déficit programmé à l'avance, bah c'est dérisoire. On est franchement dans le symbolique, là.
Voilà. Alors,
petite piécette.
Et bah exactement. Bon, une grosse piécette, quand même, à 0, mais
il y a de mauvaises langues qui se disent, mais l'argent qu'on envoie à l'Ukraine, oh là là, j'ai pas envie de poser la question, mais je la pose quand même.
Non,
on marque une pause et puis je vous la pose. Allez, à tout de suite. On marque une pause, à tout de suite. Ils ont tous quelque chose à dire à propos de l'affiche des JO. On vous entendra dans un instant. On a beaucoup discuté pendant la pause. Mais on reprend notre page économie puisqu'on ne comprend pas. Et on était avec vous, Dimitri, sur ces 10 milliards d'euros d'économies à faire. Et en même temps, on augmente, on embauche des fonctionnaires. Alors, ces économies, sur quoi on va les faire?
Alors, vous vous rappelez la phrase d'Emmanuel Macron, le quinquennat sera écologique ou ne sera pas.
Ah,
j'adore
oui.
ce genre de phrase définitive. Je vous en cite une autre, c'est celle de Gabriel Attal.
N'oubliez pas ma sous-question sur l'Ukraine,
oui,
que j'ai pas posée.
Attendez, je la garde en tête. Gabriel Attal, lors de son discours de politique générale, dit « L'école est la mère des batailles, nous devons redevenir une grande nation de recherche ». Bon bah écoutez, je vous ai fait le coup hier, une bonne image vaut mieux qu'un long discours. Regardez le tableau, le plus gros contributeur à l'effort d'économie dans les fameux 10 milliards. D'abord, c'est l'écologie. Donc le quinquennat, visiblement, ne sera pas, puisque l'écologie en prend un sacré coup. 2 milliards 2, hein, c'est 10% du budget du ministère de l'écologie, enfin la mission écologie. Alors on n'a pas le détail de ce qu'il y a dans la mission écologie, mais à titre d'exemple, on sait que, comment ça s'appelle, MaPrimeRénov', vous savez ce dispositif permettant de rénover, devait augmenter. Bon, finalement ça devait prendre 2 milliards, ça n'en prendra qu'un. C'est-à-dire qu'on a raboté la mission MaPrimeRénov' d'un milliard par exemple. Le travail, 1,1 milliard en moins. L'enseignement supérieur, la recherche, nos universités qui sont dans un état lamentable. Hein, je veux dire, moi j'entends des professeurs d'université raconter qu'ils ont l'électricité un jour sur deux, qu'ils n'ont pas de bureau, ce genre de choses. Non mais c'est du délire. L'université française,
incroyable.
C'est un sinistre absolu. Eh ben, 900 millions d'euros en moins dans le budget. L'aide publique au développement. Bon, là, vous me direz que peut-être c'est un des postes sur lesquels on peut rogner. 742 millions en moins. L'éducation nationale, notre école, hein, près de 700 millions. Oui, parce qu'en France, il faut se rappeler que l'université, l'enseignement supérieur, l'école, c'est pas le même ministère. Donc, 700 millions en moins dans le budget de l'école. La justice, 328 millions. Bref, voilà, vous avez les chiffres sous les yeux. Donc, personne n'est épargné. Ce qu'il faut dire, c'est que les deux tiers de ces économies, elles vont se faire, en fait, ce qu'on appelle la réserve de précaution. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, Bercy verse à chaque ministère une petite poire pour la soif, on va appeler ça comme ça, de l'épargne qui sert, alors officiellement on dit en cas de coup dur, non, c'est surtout en cas de folie du ministre ou du Premier ministre qui va lancer une dépense comme ça sur un coup de tête. Alors, je vais pas m'engager dans un débat sur fallait-il donner 400 millions d'euros aux agriculteurs. Mais voyez, typiquement, une crise sociale, bam, un chèque d'un demi-milliard. C'est ça, les fameux coups durs et la fameuse réserve de précaution. Voilà à quoi ça sert. Si on prend la justice, donc par exemple, c'est 328 millions d'euros que doit faire en économie la justice, la coupe réelle, c'est 80 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est nettement moins. Mais il faut quand même les trouver. L'éducation nationale, par exemple, a dit, promis, on ne va pas toucher au recrutement de profs, donc le concours, hein, mais ça va se jouer sur les contractuels, sur les AESH. Les AESH, vous savez, ce sont les personnels qui aident les enfants en situation de handicap dans les classes. C'est vrai que les AESH, on en a 50 par classe, c'est bien connu. Voilà. La mission travail, par exemple, le compte personnel de formation, donc vous savez, le CPF, que beaucoup de gens utilisent, hein, c'est un vrai carton pour se former, pour changer de métier, etc. Bah, on va le raboter de 200 millions d'euros. Donc ça a pour conséquence l'instauration d'un reste à charge de 10%. Voilà, il faudra payer, mesdames, messieurs, c'était gratuit, le CPF, c'était l'État qui abondait votre employeur, bah, faudra aussi payer de votre poche. MaPrimeRénov', j'ai dit 1 milliard. 1 milliard en moins sur MaPrimeRénov', c'est 200 000 logements rénovés en moins cette année. Vous voyez, c'est pas du tout anecdotique.
Alors, autrement dit, ça ne sera pas indolore.
Et non, et c'est ça le drame, c'est que c'est dérisoire, 10 milliards.
C'est ça.
Mais c'est douloureux.
Mais ça fera mal.
Voilà, voilà. Parce que comme d'habitude, en France, on attend qu'il pleuve pour réparer le toit. Vous savez, l'austérité, il faut la faire quand il y a de la croissance. Hein, c'est là qu'il faut la faire. Bah, nous, on attend que la croissance se resserre. Et ça ne va pas freiner la tendance de la dépense publique, qui est un train fou lancé à vive allure. Vous prenez l'ensemble de la dépense publique, c'est-à-dire les dépenses sociales également. C'était en 2002 809 milliards. On était en 2022 à 1500 milliards. Vous voyez, un quasi doublement de la dépense publique en l'espace de 20 ans. Je relisais, par exemple, le budget 2024. Là, qui vient d'être adopté, je vous le disais, à la fin de l'année dernière. Donc, dans la communication du ministère du Budget, on vous parle d'une maîtrise de la dépense publique. Recettes 2024, 349 milliards d'euros. Voilà, c'est ce qui va rentrer de nos impôts dans les caisses de l'État. Dépenses programmées, 491 milliards. Mmh. Non, mais on parle de maîtrise de la dépense publique, tout va bien. Il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre de choses, vous voyez. Donc, vous voyez, et alors, ce qui est grave aussi, c'est que les premières dépenses dans lesquelles on sabre, le coup de rabot, c'est de la dépense d'investissement. MaPrimeRénov', ça fait travailler les artisans, c'est de la rénovation thermique des bâtiments, vous voyez, c'est de la dépense utile, ça. La dépense de fonctionnement, en revanche, ça, on n'y touche pas. C'était ce que je vous disais sur la masse salariale de l'État qui continue de grimper, etc. Voilà, ajoutons que 40% de notre budget, chaque année, en fait, on ne peut pratiquement pas y toucher. Pourquoi ? Parce qu'il est logé dans ce qu'on appelle des lois de programmation qui sont programmées sur 4, 5 ans. Donc, loi de programmation militaire, de la justice, énergie, climat, etc. Et puis, il y a tout ce qui s'ajoute en cours d'année. Je vous ai donné l'exemple des agriculteurs, 400 millions d'euros. On a eu l'hôpital depuis de l'année, un demi-milliard supplémentaire. Et puis, vous l'avez dit, l'Ukraine, 3 milliards d'euros. Donc, d'un côté, 10 milliards d'euros d'économie, de l'autre, 3 milliards pour l'Ukraine. C'est un peu contradictoire.
Mais ne soyons pas lâches, a dit le chef de l'État.
L'esprit de défaite. Ne cédons pas à l'esprit de défaite.
Merci beaucoup, mon cher Dimitri. Voici l'autre affiche qui fait beaucoup parler ce soir. Certains la décrivent comme l'affiche de la honte. Pourquoi ? Vous nous direz si c'est vraiment l'affiche de la honte. On peut comprendre quand même ce parallèle entre Simone Veil et Mathilde Panot, qui est réalisé par la députée LFI le jour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, comme un peu la droite ligne de la politique de Simone Veil. En quoi cette affiche est-elle gênante ? Pourquoi est-ce qu'elle fait parler autant ?
On l'a fait ! C'est extraordinaire, regardez. Et alors, déjà, si l'on fixe le visage, on voit Simone Veil à la tribune, devant le micro, dans une élégance et je dirais une dignité incroyable. Et puis face à elle, on a, en tenue presque révolutionnaire, l'écharpe bleu-blanc-rouge, la tenue pas spécialement soignée, les cheveux en arrière, et alors le sourire, regardez ce sourire,
soit c'est un sourire de contentement, on l'a fait, soit il y a un côté un peu narquois. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans l'usurpation, parce qu'on peut quand même utiliser ce terme, usurpation, pourquoi ? Parce que ça devient, pour les fistes, la loi panneau. C'est carrément la loi panneau. Ah oui, on va mettre un panneau, c'est à moins qu'ils ne sachent pas écrire vraiment le mot. C'est possible aussi, ils ne sont pas tous d'un grand niveau. Et puis, il y a le tweet qui accompagne l'affiche. N'oubliez pas, on aperçoit là l'IVG. Vous voyez ce qui est marqué, l'IVG, mon corps, mon choix. C'est pas tout à fait la philosophie de Simone Veil. Je vais utiliser un terme de Mathieu, j'y reviendrai. Non, il faut savoir quand même avoir ses classiques. Alors, nous avons le tweet, ce vote historique a été arraché par notre victoire parlementaire. Arraché. Quelle victoire ! Il l'a évoqué d'ailleurs Mathieu ces deux derniers jours. Eh oui, on était là, il y avait un tel suspense, on se demandait même si ça allait pouvoir être emporté, on tremblait. Et il a fallu que LFI se déploie, ait une énergie phénoménale des arguments pour emporter la victoire, car ce sont eux qui emportent la victoire. L'adolescent ressemble à l'adulte, eh bien c'est un peu ce que fait notre Mathilde Panot, qui regarde notre Madame Veil et qui veut lui ressembler. C'est un rêve d'adolescente. Alors maintenant, il nous faut reprendre quelques termes employés hier à Versailles, dans le temps de parole qu'il était le sien. L'histoire du féminisme est l'histoire de ce devenir indéterminé où chacune se fait sujet de sa propre existence. Vous reliez le droit à l'avortement, un carrefour de l'intime et du politique, c'est la condition fondamentale de toutes les libertés, la condition de notre égalité réelle à construire avec les hommes. J'y reviendrai dans un instant, décidément. Mais si l'on prend les propos dans le livre, dans l'autobiographie écrite, j'ai relu l'autobiographie, Ma vie, de Simone Veil. Elle dit, la contraception, c'est la liberté et la maîtrise de leur corps, parlons des femmes. L'avortement ne soustrait pas les femmes à l'autorité des hommes. Ah, alors là, on revient à l'égalité réelle, telle que l'envisage Mathilde Panot. Mais jamais un homme ne connaîtra les turpitudes de la découverte d'une grossesse non désirée. Soudain, la femme qui se retrouve placée devant une angoisse, souvent la solitude, que va-t-elle faire ? Cette image terrifiante du déclassement social de celle qui devient mère célibataire. Et puis, que faire ? On n'est pas là dans une liberté. On est éventuellement dans un pis-aller. C'est-à-dire que la liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est de pouvoir jouir de quelque chose de nouveau. On la vit en allégresse, en légèreté, en insouciance. C'est extraordinaire, la liberté. On en rêve tous. C'est quelque chose en plus. Là, c'est pas quelque chose en plus. C'est comment éviter un désespoir ? Comment ne pas tomber dans le drame ? Il faut savoir utiliser les mots quand on est dans ce statut de représentant du peuple. On ne peut pas, comme ça, eh bien, souiller le mot « liberté », lui enlever tout son sens, comme le mot « égalité » avec les hommes. Quel homme se retrouva dans ces situations telles que je les ai détaillées très grossièrement ? L'acte de vivre. Alors, l'avortement, non, ce n'est pas une liberté. Rappelons ce qui s'est passé pour Simone Veil. Là, c'était une véritable lutte. L'année précédente, alors que le président Pompidou était encore vivant, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, M. Tétinger, avait proposé une loi qui était très restrictive dans les cas les plus difficiles, par exemple victime d'un viol, ou que le fœtus avait de fortes probabilités de naître avec des malformations. Dans ces cas-là seulement, l'avortement était envisagé. Les députés avaient dit non. Eh bien, Simone Veil reprend le dossier. Et il va lui falloir convaincre les uns et les autres. Alors, elle se détourne des institutions, elle rencontre les médecins. Il faut savoir que l'Ordre des médecins et son président disaient jamais, il n'y aura pas cette autorisation, il n'y aura pas cet appel au crime en quelque sorte. Mais en revanche, quand elle rencontre les médecins, ils lui disent quoi ? Dans le quotidien, même ceux qui ont une conviction religieuse, ils connaissent les drames, celles qui se soumettent à ces faiseuses d'anges. Il dit, par exemple, quand je rencontre le docteur Berger qui s'occupe de la commission sociale à l'Assemblée, il est de Bourgogne et il me fait part de l'horreur. Tous les vendredis soirs, il y a un départ de Paris dans des cars pour celles qui espèrent pouvoir ne pas tomber dans ce drame de la solitude et dans l'horreur, cette meurtrissure de corps. Non, ce n'est pas une liberté, c'est comment échapper au drame. Et il lui faudra jusqu'à la dernière seconde lutter, passer d'une autorité à l'autre. L'Église est plutôt bienveillante à l'époque, les protestants également sont plutôt bienveillants, et elle réussit à obtenir cette victoire avec 284 voix, largement au-dessus des 189 de ceux qui votent contre. Mais vous voyez, on est bien dans l'usurpation, on est bien dans l'indignité telle que le fils de Madame Simone Veil l'a signifié par tweet.
Deux femmes, deux ambiances, deux années différentes. Hashtag face à l'info. Dites-nous si cette affiche vous choque, vous également. Et quelqu'un dit sur les réseaux sociaux, je vais vous dire qui après. Alors pourquoi n'inscrit-on pas également dans la Constitution l'interdiction totale du voile islamique dans l'espace public au nom du droit et de la liberté immuable et sacrée des femmes ?
C'est ce que j'ai dit hier, en conclusion de mon édito.
Je sais. C'est Jean Messia qui l'a dit sur les réseaux sociaux. Charlotte, on va s'arrêter un peu sur une information dont personne ne parle à part le Parisien. Alors, tout le monde a les yeux tournés vers Paris. Ouh, les JO, ouh, ça sera beau, ouh, 326 000, ouh, l'affiche, elle est belle. D'ailleurs, on fera un tour de table hein, sur l'affiche encore dans un instant. Mais les rues de Paris, zoom sur une question. Montrez-nous la carte, zoom sur une partie de Paris, un quartier particulièrement, à la mainmise afghane sur le quartier Max Dormoy, dans le 18e arrondissement de Paris. Quelle est l'inquiétude réelle des autorités sur place dont parle le Parisien ?
Alors, dans le dossier du Parisien, il y a deux sujets vraiment qui sont abordés à partir de cette présence afghane dans le 18e arrondissement. Il y a un, la question du rachat de tous les commerces qui sont localement dans ces rues-là, et le rachat avec suspicion de blanchiment. Évidemment, c'est pas le rachat des commerces en soi, mais c'est la manière dont ils sont rachetés et la manière galopante avec laquelle ils sont rachetés par la communauté, notamment afghane. Et le deuxième sujet qui est abordé, c'est le trafic de cigarettes et la guerre de territoire qui se joue sur les trafics un peu en tout genre, hein, le trafic de cigarettes étant le premier, mais on vend un peu toutes sortes de choses, et qui a été gagné hein, puisqu'ils parlent eux-mêmes de guerre de territoire, et cette guerre-là a été également gagnée par ces mêmes Afghans qui ensuite embauchent de manière assez large dans les différentes communautés qui habitent à proximité de cet endroit. Sur la question du rachat de ces commerces, alors il y a plusieurs communautés qui sont présentes dans les commerces du quartier. Le personnel, lui, est massivement afghan, pardon, et ils sont généralement arrivés tous avant l'arrivée, le retour des talibans à Kaboul en 2021. Donc ce sont des gens qui étaient des Afghans qui étaient présents avant l'arrivée des talibans. Donc c'est pas une question de réfugiés récents. Et au gré des vagues migratoires, nous indiquent les journalistes du Parisien, donc ces commerces sont passés sous pavillon indo-pakistanais, puis maghrébin, puis subsaharien et désormais afghan. Alors c'est une réalité qu'on dissimule habituellement derrière l'appellation populaire. Vous savez, quartier populaire. Bon bah là, dans le détail, le quartier populaire, c'est pavillon indo-pakistanais, maghrébin, subsaharien, désormais afghan. Donc vous voyez qu'il y a un roulement. Comment ?
Et l'un chasse l'autre,
et vous allez voir qu'il chasse l'autre. Hein. C'est relativement violent. Oui. Et depuis le confinement, donc en 2020, les rachats ont commencé jusqu'à éveiller les soupçons des autorités. Alors, le parquet ne communique pas sur les affaires en cours, puisqu'il y a notamment deux commerces. On parle de sommes de 200 à 400 000 euros qui sont un peu intraçables pour racheter ces commerces-là. Et plusieurs rachats sont dans le viseur, notamment en raison de l'argent liquide qui est impliqué, et surtout que ces biens sont, de manière générale, achetés au-dessus de leur prix. Ce qui éveille évidemment toujours les soupçons, surtout quand vous avez une partie qui est payée en liquide. D'autant que les marchands de sommeil sont extrêmement connus. Enfin là, c'est moi qui rajoute ça, mais les marchands de sommeil sont extrêmement connus dans le quartier et que vous avez des personnes qui payent 20 euros en liquide pour être entassées dans des appartements, je dirais évidemment, par les mêmes personnes qui sont en l'occurrence recherchées. Alors c'est le lien avec le deuxième sujet, c'est qu'en fin d'après-midi dans ces rues, vous avez des Afghans qui eux sont arrivés depuis 2021, pour certains fuient les talibans, pour d'autres profiter de l'arrivée des talibans, puisque vous allez voir que sur les questions d'accueil migratoire, eh ben, certains en profitent en effet, et eux se massent dans les rues pour vendre des cigarettes de contrebande. Et alors que devient cet argent? Il est évidemment... Enfin, il est évidemment blanchi quelque part, hein, puisque cet argent est bien recyclé. Et donc, le soupçon, c'est qu'il soit blanchi précisément dans l'achat des commerces qui sont pour certains désertés de tout client sur une année entière. C'est-à-dire qu'il y a des habitants qui disent « mais on passe devant, il y a des Afghans partout qui vendent les cigarettes, les machins, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un client qui rentre dans ces commerces. »
Incroyable.
Et qu'est-ce qui a changé ces derniers... Bah oui, alors d'abord, au passage, notons pour tous ceux qui veulent dépénaliser le cannabis pour régler le trafic, que les cigarettes, c'est dépénalisé depuis un petit bout de temps. Ça n'empêche pas le trafic. Je referme la parenthèse. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois? Alors c'est Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui donne la réponse. Il dit « la rue Marx-Dormois a été inscrite il y a une quinzaine de jours dans le plan Place Net. Ces opérations de sécurisation et de judiciarisation mises en place dans le cadre des Jeux Olympiques. » Donc ça, c'est ce qui a changé et c'est la raison notamment pour laquelle on en parle, c'est qu'ils ont identifié des places qui devaient devenir nettes pour les Jeux Olympiques. Et les habitants qui réclament un tout petit peu de tranquillité depuis des années, ils doivent être ravis, eux, d'accueillir les JO pour des raisons tout autres que des raisons sportives. Et parce que au-delà du trafic, évidemment, c'est les témoignages des habitants qui sont stupéfiants. Ils décrivent d'abord une ambiance 100% communautaire, 100% masculine. Alors évidemment, on se demande qui a fui exactement les talibans, parce que dans le discours, vous savez, on se dit les talibans pèsent en premier lieu sur les femmes. Et dans les faits, on voit des hommes de 25-26 ans qui sont ni avec des femmes ni avec des enfants, hein, pour la plupart d'entre eux. Et le maire adjoint à la sécurité de répondre tout simplement qu'il faut... devant ce spectacle-là, qu'il faut, je cite, « travailler à leur intégration dans le quartier ». Donc c'est voilà la phrase qui dit « il faut travailler à leur intégration ».
Où sont les femmes? Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit des rues qui sont passées sous pavillon afghan, alors que ce sont les femmes qui sont en difficulté en Afghanistan et qu'elles ne sont pas présentes en France.
Souvent, en plus, elles servent de caution, on va dire, à l'acceptation de nouvelles vagues migratoires. Et honnêtement, que celui qui a des yeux et qui le voit...
Merci pour la musique. Merci.
Toutes les images qui arrivent, bon, les femmes, on les cherche. Hein.
Alors, n'est-ce pas, en effet, la solution, Charlotte, vous disiez que le maire adjoint en charge de la sécurité de répondre qu'il faut travailler à leur intégration dans le quartier. Est-ce que c'est pas ça la solution? Permettre une intégration qui casse ce repli sur soi que l'on observe, que dénoncent justement les habitants qui subissent une situation de trafic permanent?
Oui, parce que pendant que certains accusent les Français qui s'inquiètent de l'ampleur de l'immigration, de repli sur soi, les habitants, eux, constatent un repli sur soi qui n'est pas leur, en l'occurrence, et qui est celui de populations qui se succèdent et avec qui ils n'ont aucune autre interaction que la peur. Hein. C'est aussi simple que ça, en l'occurrence. Et par ailleurs, là, dans la description du quartier, la première question qu'on a envie de poser à ce maire adjoint, c'est intégration à quoi exactement, à qui? C'est quand on voit les vagues successives et la manière dont ils ont la main mise sur le quartier, et par quels moyens veut-il intégrer des personnes qui se regroupent en communauté et qui, en l'occurrence, au-delà de la question du blanchiment d'argent et du trafic de cigarettes, même dans la manière de vivre, vous le disiez, ils sont passés sous pavillon afghan. Les journalistes décrivent tout simplement des drapeaux afghans qui sont mis dans tous ces commerces-là un peu partout. Donc il y a une affirmation, on va dire, identitaire qui est extrêmement claire et une reconstitution de la société d'origine avec tous ses codes culturels, ce qui n'est pas un mal en soi, hein, la société et les codes culturels afghans. Simplement, quand ça s'installe à Marx-Dormois, bah, c'est plus la France, ça c'est sûr et certain, qui est plébiscité. Et ce que racontent les habitants et les policiers, c'est en effet cette mainmise qui concerne tout. C'est-à-dire qu'il y a un commerce donc, qui est illégal, en l'occurrence, qui est installé de longue date et qui est récupéré par les Afghans à la suite, je cite les habitants d'une guerre et les policiers, d'une guerre de territoire. Alors vous avez un commerçant qui explique qu'avant, il y a quelques années, c'était donc les Maghrébins qui tenaient notamment certains de ces vendeurs à la sauvette, etc., les commerces. Et alors, je cite le commerçant, ils les ont repoussés vers leur fief de Barbès. Donc à Barbès, vous avez le fief maghrébin, et voilà. Et ça a commencé il y a quelques années, ce n'était pas des bagarres, mais des batailles rangées. Ils ont conquis le territoire par la force. Donc moi, je veux bien qu'on essaye de se féliciter pour des victoires et des batailles qui ne coûtent rien à personne, jamais. Mais là, en l'occurrence, il y a une menace très claire qui empêche de vivre les habitants, qui les empêche de sortir de chez eux, et en particulier les femmes, parce que ce sont évidemment les plus inquiètes de la situation. Et par ailleurs, la police, et ça, elle le décrit elle-même, saisit le matériel quand ils arrivent à attraper des vendeurs à la sauvette. Ils laissent systématiquement, enfin pas systématiquement, ça dépend si c'est place nette ou pas, mais repartir les vendeurs parce que vous n'avez impossibilité de tracer, impossibilité de gérer la situation migratoire de ces personnes. Et les maîtres d'œuvre de ces trafics illégaux sont évidemment ravis eux aussi d'accueillir une main d'œuvre qui d'abord n'est pas chère, qui échappe complètement au radar et donc qui est sous leur coupe absolument. Donc quand on nous explique que c'est notre honneur que d'accueillir ces personnes, je ne sais pas très bien où se niche l'honneur des personnes qui nous disent ça.
Quelle est la maîtrise, la connaissance et la réalité de cette immigration, puisqu'il y a ce sujet-là qui est évidemment présent dans ces trafics?
Alors, il y a quelques temps, justement, il y avait un reporter, alors c'était pour le JDD, qui était parti justement à Marx-Dormois pour demander à ces Afghans quelle était leur situation migratoire, quand est-ce qu'ils étaient arrivés, par quel biais et quel était leur parcours. Et alors, on avait d'abord, il faut savoir que pendant les 5 années qui ont précédé la reprise de pouvoir des talibans à Kaboul, les 5 années qui ont précédé, les Afghans, c'était le premier pays de provenance dans les demandes d'asile. Mmh. Donc ça n'est pas l'arrivée des talibans au pouvoir qui a provoqué cette vague d'immigration. Or, en l'occurrence, eux répondaient que c'était un moyen de tenter leur chance, notamment sur le terrain économique, tout simplement. Et ça n'a pas changé pour certains d'entre eux. Par ailleurs, désormais, il n'y a plus aucune relation diplomatique sur ce terrain-là entre Paris et Kaboul. Donc qu'ils soient acceptés ou non au droit d'asile, personne n'est expulsé vers un pays non seulement en guerre, et en plus avec qui on n'a pas de relation diplomatique. Les fameux laissez-passer consulaires sont difficiles à obtenir quand vous n'avez pas de relation.
Donc zéro expulsion.
Et voilà, donc il n'y a pas d'expulsion vers ce pays-là. Et la communauté dépassait les 100 000 individus avant 2021. Et là évidemment, le pays de provenance se poursuit. Et on a un assistant social qui nous dit « Les migrants afghans sont très jeunes, 25-26 ans en moyenne, ce que je vous disais. » Et lui raconte. Il raconte, donc il travaille avec eux. Il dit « L'histoire type est celle d'un Afghan qui refuse de collaborer avec les talibans, qui se fait menacer puis qui se résout à l'exil. Est-ce seulement vrai ?» Il pose la question et il dit « Dans la plupart des cas, sans doute pas, mais c'est impossible à vérifier. » Bon, très bien. Et les femmes se font extrêmement rares et c'est pourtant elles qui servent d'exemple, par exemple, à la Cour nationale du droit d'asile, qui les considère désormais comme un groupe social en danger. Alors avec les talibans, le groupe social en danger, on n'a pas de problème à le comprendre, mais le fait est que ce ne sont pas leurs dossiers qui passent. Et alors le truc le plus magnifique, c'est qu'il y a un nouveau critère jurisprudentiel, en l'occurrence, qui fait débat à la Cour nationale du droit d'asile, qui s'appelle l'occidentalisation. En gros, au moment où on se dit un tel est débouté, est-ce qu'on le renvoie ou pas, si un jour on se pose la question de pouvoir renvoyer en Afghanistan, eh bien, s'il y a occidentalisation de la personne, on se dit donc qu'il va être considéré comme un mécréant en rentrant chez lui et potentiellement menacé de mort. Et que nous dit le même assistant social qui travaille auprès d'eux? Il dit « Par stratégie, ouvrez les guillemets, je cite, « Par stratégie, j'envoie les demandeurs d'asile au musée d'Orsay se photographier devant des œuvres de femmes nues, ce qui peut prouver une occidentalisation devant la Cour nationale du droit d'asile, si besoin était, un peu plus tard. »
Incroyable. On a perdu Mathieu.
Voilà, au-delà d'histoires personnelles qui peuvent être ici ou là complètement réelles par rapport à la menace, vous avez aussi beaucoup de gens qui en profitent.
Merci beaucoup Charlotte Dornelas pour ce zoom sur Paris, juste avant les JO. On va se faufiler comme ça dans les rues de Paris. Maintenant, le tour de table, tant promis et tant attendu, parce qu'on vous a entendu sur l'affiche des JO. Et on commence par vous Dimitri, ensuite Marc, on ne vous a pas encore entendu sur cette affiche. Alors je disais que je me fais remonter les bretelles. Oui, Christine, vous avez promis de nous dire pourquoi la croix était sur le dôme. Alors, moi, je me suis renseignée. Je crois que la croix est sur le dôme des Invalides. Je parle sous votre contrôle, Marc Menant. Elle a été placée au moment, notamment pour rendre hommage aux soldats chrétiens qui ont été enterrés dans le lieu.
Oui, mais ça aussi, c'était l'église Sainte-Geneviève précédemment. C'est-à-dire que c'était une église. Et ça devient le Panthéon. mais le lieu était d'abord religieux.
C'est les Invalides, là.
Ah, pardon, excusez-moi.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi.
C'est vrai qu'il y a aussi une croix du Panthéon.
Excusez-moi, c'est tellement dessiné, j'avais même pas vu.
Donc ouais. Là, on reparle, pardonnez-moi si je n'ai pas été claire, de cette affiche des JO avec le Dôme des Invalides où la croix a été remplacée par une flèche. Et la question, c'est pourquoi le dessinateur Ugo Gattoni, connu pour sa spécialité, sa particularité, c'est le souci du détail, a omis de mettre la croix. Marc Menon. Et est-ce que vous êtes choqué ?
Mais non, mais là, c'est l'ensemble qui est choquant. Parce que tout à l'heure, Mathieu disait Walt Disney. Là, c'est pas Walt Disney, c'est Las Vegas. C'est le mauvais goût de Las Vegas. Et quand vous voyez l'affiche, vous n'avez pas du tout l'impression qu'il y a même une sorte de caricature de Paris. Où sont... On en revient par exemple Notre-Dame. Notre-Dame, c'est un sacré symbole. Il n'y a pas de Notre-Dame. Alors, le côté religieux...
Il n'y a pas de rat non plus. Hein.
Non, mais regardez la Tour Eiffel. Moi, à Las Vegas, j'ai vu la même Tour Eiffel s'ériger il y a 25 ans dans la cour d'un hôtel. C'est cette Tour Eiffel-là. Mais ça n'a rien à voir. Où Paris émerge, le symbole même de Paris. C'est l'une des villes les plus caractéristiques qui soit dans le monde. On a une idée partout de ce que peut représenter Paris. Là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, oui, c'est...
C'est aussi la liberté de l'artiste.
Mais non, mais ça, on sort...
D'avoir un peu de rose.
Mais le dénier de l'artiste,
Non, mais un artiste fait ce qu'il veut. En l'occurrence, le propos n'est pas là. C'est qu'il doit servir pour appeler... célébrer un événement. Et à Rio, aux Jeux Olympiques de Rio, il y avait le grand Christ qui figurait. Donc ce n'est pas une question de religion.
Alors justement, pendant que vous parlez des autres affiches, on va voir les autres affiches des JO des années qui sont passées. Et je me tourne aussi vers vous, Dimitri. Est-ce que vous, pour vous, c'est choquant et que c'est un détail ou pas, justement, cette croix qui a été remplacée par une flèche?
Écoutez, je vais vous lire la défense. Parole à la défense, oui. Hugo Gattoni, oui. L'artiste, qui donc oui. A réagi tardivement dans l'après-midi face à la montée de la polémique. Et il dit,
à travers mon dessin
des affiches, je ne cherche pas à représenter les objets ou bâtiments de manière conforme. Je les évoque tels qu'ils m'apparaissent à l'esprit et sans arrière-pensée. Je ne cherche pas à ce qu'ils soient fidèles à l'original, mais plutôt qu'on puisse se figurer en un clin d'œil de quoi il s'agit, tout en le projetant dans un univers surréaliste et festif. Bon, écoutez, moi je veux bien, je trouve que le dessin est voilà, cet esprit un peu bubble, un peu pop, etc. Mais évidemment, je pense qu'il y a une volonté d'effacement. Cette croix le gênait parce qu'il s'est dit « on va m'attaquer pour la représentation d'un signe religieux, mieux vaut tout effacer ». Alors on pourrait se dire « bon, il laïcise la représentation de Paris ». Très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi cette obsession du détail, par exemple, dans la figuration des Invalides? Vous avez montré tout à l'heure le toit, on le reconnaît absolument. Et puis, attention, là vous nous montrez les affiches officielles. Mais vous savez, l'histoire de ce dessin, elle est à écrire. Parce qu'aujourd'hui, on se barricade du côté du COJO, du côté des organisateurs des Jeux, oui. Sur comment on arrive à ce dessin. C'est pas l'affiche officielle. C'est pas l'affiche officielle de Paris 2024, ça. Si vous voyez, c'est quelque chose en plus. Et alors, bon, j'attends de savoir l'histoire. Elle va sortir. Elle sortira.
Alors, je vais vous montrer un tweet pour laisser parler Charlotte peut-être sur ce sujet. Le tweet de Paris 2024, une image vaut 1000 mots. Voici les deux affiches officielles pour les JO. Une image vaut 1000 mots. Et je vais vous montrer aussi Paris Miniature. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé dans Paris Miniature. C'est formidable à côté de Paris. France Miniature, pardon.
Du côté
Miniature.
De Trappes, c'est ça ?
Exactement.
Oh, il y a la croix.
Et il y a la croix. Eh oui, il y a la croix. C'est moi qui ai pris cette photo. Et pour montrer qu'ils auraient pu aussi effacer la croix. Donc, en général, lorsqu'on représente, on garde la croix, Charlotte. Vous aussi, ça vous choque ou pas ? Ou bien, comme dit Prisca Thévenot, oh, c'est indécent, ça va.
C'est indécent, ça va, j'adore. Non, mais en effet, il a un sens du détail qui est absolument incroyable. On a les arabesques et les dessins au millimètre près sur son dessin. Mais en effet, les colonnes ne sont pas violettes. Il aurait pu prendre ça comme argumentaire. La chose que je trouve, vous savez, dans cette volonté d'effacement, parce que c'est pas seulement ici qu'on la trouve. Si c'était la première fois, on pourrait se dire oui, d'accord. C'est quand même assez régulièrement qu'il y a cette tentative d'effacement. Et il y a toujours, au bout d'un moment, quelque chose de grotesque, encore plus que totalitaire. C'est-à-dire, c'est un totalitarisme ridicule. Et là, il prend pas, c'est pas les Invalides. C'est une cathédrale, en l'occurrence. C'est Saint-Louis des Invalides. C'est pour ça qu'il y a une croix au sommet. Il choisit de dessiner précisément une cathédrale en se disant, oui, mais tel que je me le représente. Alors, si pour lui, une cathédrale, c'est sans la croix, bon, là, c'est carrément de la culture élémentaire. Il faut recommencer, quoi. Donc, c'est beaucoup plus, je trouve ça significatif dans le ridicule, en fait.
Effectivement. Merci beaucoup pour votre regard, Charlotte, et vous êtes déjà exprimée. Dernier sujet. Dimanche, c'est tenu à Pantin, dans le cadre de l'association Parole d'honneur, une conférence qui se voulait de soutien au peuple palestinien. Certains propos d'une invitée, la philosophe Judith Butler, très contestée, sont remontés à la surface. Elle y présente le 7 octobre comme un geste de résistance dans une lutte armée et refuse d'y voir un acte antisémite. Alors, vous avez écouté toute la conférence, Judith Butler, pendant 5 heures, que comprendre d'un tel discours un peu plus de 6 mois après le pogrom du 7 octobre?
Alors, vous avez raison, 5 heures, et c'est pas que Judith Butler, c'est toute série de gens qui sont là. C'était le carnaval, enfin, c'était un colloque de...
Qui avait été interdit en décembre, d'ailleurs.
Alors, c'était pénible, franchement. Je parle des 5 heures, là. Je voulais confesser ma douleur. Alors, je précise, Judith Butler... Qui était là aussi? Françoise Vergès, Michel Ciboni, Olivier Marbeuf, des intellectuels qu'on dit généralement indigénistes. Il y avait aussi des gens de la France insoumise, Daniel Obono, Thomas Portes, Younous Omarjee, qui étaient là. Il y avait des représentants de la mouvance Antifa, Action antifasciste Paris-Banlieue. Il y avait des représentants des partis anticapitalistes. Donc, c'était véritablement une kermesse politique pour marquer et très, très hostile à l'idée même d'Israël, soyons très honnêtes. Qui est Judith Butler, pour qu'on se fasse une idée? On parle souvent, vous savez, aujourd'hui, de la théorie du genre. On en parle beaucoup. C'est la papesse de la théorie du genre. C'est elle qui a véritablement travaillé depuis des décennies à dynamiter l'existence même des deux sexes, qui cherche en fait à dynamiter l'existence du corps sexué en Occident. Et elle a une influence intellectuelle immense. On est même au-delà de ça.
Philosophe
américaine. Et je vous dirais, il y a beaucoup de gens qui, dans ce qu'on appelle la droite de gouvernement, finissent sans s'en rendre compte par reprendre les conclusions de Judith Butler sans savoir qu'ils la citent. Dès que vous avez quelqu'un qui parle du genre plutôt que du sexe, il faut les mettre dans son club. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est un extrait qui a circulé, on va le résumer. Elle nous dit, comment qualifier le 7 octobre? Ce n'est pas une attaque terroriste, ça va de soi. Ce n'est pas une attaque antisémite, ça va de soi non plus. C'est pas un pogrom, donc que nous dit-il? C'est un acte de résistance armée. Elle dit ça, c'est un terme consensuel. Ensuite, elle nous dit, on peut être d'accord ou non avec la résistance armée, mais ce terme est le seul objectif pour décrire ce qui s'est passé. Donc, vous comprenez, elle dit qu'il y a une structure de pouvoir, une structure d'oppression en Israël qui pèse sur les Palestiniens. Et ce qui se passe le 7 octobre, ce n'est rien d'autre qu'un acte de résistance, d'un soulèvement contre une structure de pouvoir associée au dernier État colonial dans le monde. Ça, c'est le discours qui est tenu. Donc, c'est un discours de légitimation de la violence. Elle n'est pas nécessaire en toutes circonstances, nous dit-elle, mais elle est légitime lorsque les Palestiniens, dit-elle, en font usage. Autre chose, que pensait, qu'on lui pose la question, vous savez, les viols des femmes en Israël? Très rapidement, elle balait la question. On verra s'il y a des preuves, mais pour l'essentiel, les véritables violences faites aux femmes, le véritable féminicide, tout ça, c'est à Gaza qu'on le connaît aujourd'hui. La véritable violence faite aux femmes, c'est à Gaza. En Israël, finalement, il ne s'est rien passé, sinon les abus propres à la guerre. Le véritable scandale se passe aujourd'hui à Gaza, nous dit-elle, sous l'applaudissement de la salle.
Alors que l'ONU a reconnu aujourd'hui. Faites-vous un lien, Mathieu Bock-Côté, entre les différentes positions de cette philosophe?
Oui, vous avez raison de le mentionner. Il y a des liens à faire entre tout ça. Donc, d'un côté, en fait, il y a une volonté profondément destructrice et nihiliste. Je veux dire, pour Dieu, ça fait plus de 20 ans que je lis Judith Butler, et on est devant des philosophes, certainement pas les plus puissantes de notre temps, mais les plus influentes. C'est peut-être que dans des temps, justement, d'accès rapide à la pensée, mieux vaut être pas trop profond et pas trop passionnant, et à fournir des formules faciles et céder au plaisir de la destruction. Et c'est ce qui caractérise son œuvre, c'est dynamiter les nations, dynamiter les peuples, dynamiter les sexes, dynamiter notre civilisation, mais tout ça en Occident seulement. En 2006, elle avait déjà présenté le Hezbollah et le Hamas comme des mouvements appartenant à la gauche globale, parce qu'ils étaient en lutte contre la superstructure occidentale. Plus loin, je le dis en passant, elle nous dit qu'il faut être solidaire toujours. Donc les mouvements queer, les mouvements trans, nous dit-elle, doivent être solidaires de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, des Palestiniens, même les plus radicaux. Je me dis, franchement, si elle pense que les queer et les trans ont un avenir en Israël, à Gaza, bonne chance. Et phrase finale, parce que c'est vraiment important, Françoise Vergès qui était là, a la phrase suivante. toute la jeunesse partout dans la rue, il y a un glissement, une plaque tectonique qui bouge. Tout un Occident, c'est fini. On n'y croit plus. Cette histoire des droits humains, on n'y croit plus. Et elle présente le peuple palestinien comme le porte-parole, en fait, de la grande révolte anti-occidentale. Et que répond Judith Butler à cette phrase quand tout le monde applaudit dans la salle? Je crois que tu devrais avoir le dernier mot. Judith Butler, lorsqu'on se retrouve devant un appel à détruire notre civilisation, dit « je crois que tu as le dernier mot ». Ça nous en dit beaucoup, je crois, sur cette philosophe qui est accueillie un peu partout, à la manière d'une grande théoricienne, d'un grand penseur. Je serais curieux de savoir, tous ceux qui l'applaudissent aujourd'hui, que pensent-ils de ce qu'elle a dit à ce sujet et à ce sujet de bien d'autres sujets.
Merci beaucoup, mon cher Mathieu.
5 heures quand même, 5 heures.
Ah oui, et puis 20 ans de lecture de Judith Butler.
Oui, je sais.
C'est merci à tous.
C'est le philosophe qui est un peu gênant, qui n'est pas ciblé.
Ou américain, les deux peut-être, les deux juxtaposés. Excellente suite de programme, tout de suite l'heure des pro-deux. À demain.